Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver. Hein. Après le petit week-end de repos de la semaine dernière pour le week-end de Pentecôte, on va avoir naturellement beaucoup de choses à vous raconter. Donc on aura naturellement un grand journal omnisport de la quinzaine avec notre ami Alexandre que je salue. Bonsoir Alexandre, ça va ?
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous, ça va très bien.
C'était bien Miami ?
C'était très très bien.
Bon, tu sais qu'on a une deuxième équipe qui a gagné la Ligue des Champions de football.
J'ai vu ça.
T'as vu ça là-bas ?
Ouais, j'ai vu ça.
À défaut d'interview de Lionel Messi. Ah
oui. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu l'Inter Miami et c'était une vraie expérience aussi, c'était vraiment pas mal.
Très bien, je vais saluer aussi Vanessa qui elle n'a rien raté, elle n'a pas raté une balle de la quinzaine de Roland-Garros.
Ouais.
Bonsoir Vanessa, ça va ?
Bonsoir Philippe. Très
ouais,
bien, ouais.
Très bien. Et puis, bah, voilà, on va aussi retrouver pour la dernière fois de la saison le mag MMA avec notre ami Benoît. Bonsoir Benoît.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippe. Comment
ça va ? Ça va. Je pense que tu as plein de choses à nous dire encore.
Bah, hein, en réalité, plein de choses, ouais. Mais on a été engloutis par la victoire d'un club français à la Ligue des Champions.
Ah bah oui.
Compliqué de rester focus sur le MMA.
D'accord, très bien. Et puis notre invité aujourd'hui, on aime parler de tous les sports. Hein, et plus que jamais, on va parler ce soir de football de table. Ça va nous ramener un petit peu dans notre jeunesse. Avec donc le président non seulement de la Fédération Française, mais aussi du PUC, Eric Nassali. Bonsoir Eric.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Ravi de vous retrouver.
Avec plaisir.
Alors, je voulais
merci
simplement. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. C'est une passion d'enfance. C'est venu à travers le foot. Vous êtes de la même génération que nous.
Hein oui, c'est venu par le foot au départ. Et puis parce que j'ai vite mordu dedans quand j'ai eu le cadeau pour Noël. Et puis d'un tournoi après l'autre, on se prend au jeu.
Et on va voir que c'est une véritable activité sportive.
Ah oui.
Bien très bien, donc on va le découvrir, ça sera le but de cette émission. On va donc, comme je l'ai dit, on retrouvera aussi notre ami Stéphane Desenclos hein, pour le dernier point foot de la saison. On va donc, comme je l'ai dit, eh bien, commencer par le MMA. Donc Benoît, depuis ta dernière venue au mois de mai, quelles sont les nouveautés en matière de MMA ?
Ben, déjà, les nouveautés en matière de MMA, je pense qu'on va commencer à parler de l'UFC Night qui a eu lieu du coup ce samedi soir. Donc là, c'était le retour de Kamaru Usman, l'une des légendes de l'UFC, notamment de la catégorie des welterweight, qui affrontait à ce moment-là Joaquin Buckley. Donc du coup, c'est clairement un combattant qui monte en pression, qui gagne de plus en plus de victoires. Et c'était intéressant comme combat, puisqu'on avait l'un des anciens champions de la catégorie, qui a été nommé par le président de l'organisation, Dana White, comme étant le plus grand welterweight de tous les temps, donc ce n'est pas rien. Pour les auditeurs qui nous écoutent, welterweight signifie tout simplement les poids mi-moyens. Et donc du coup, ça a été un combat en 5 rounds qui s'est illustré par la victoire de Kamaru Usman. Donc c'était un peu son retour, puisqu'il avait enchaîné 3 défaites depuis ses derniers combats. Et là, il revenait face à justement un combattant qui venait, comme Joaquin Buckley, qui enchaînait les victoires. Donc du coup, ça permet de le rassurer. Et pour certains, on parle déjà d'une possibilité pour lui d'affronter le futur champion en titre de la catégorie, puisque la ceinture va être défendue contre Islam Makhachev face à le champion en titre, mais vous m'excuserez pour l'absence de son prénom, c'est un prénom assez compliqué à mentionner.
Bon, les spécialistes le trouveront, nous.
Les spécialistes le trouveront, exactement. Et sinon, on a eu un combattant français lors de cette soirée. Donc c'était du coup Oumar Sy qui affrontait Alonso Menifield et malheureusement il a perdu son combat face au combattant américain. Alors pour la défaite, ça a été un combat très serré, très compliqué. Malheureusement, Oumar Sy, moi j'estime qu'il n'a pas réussi à s'illustrer durant le combat. Il est resté très hésitant, on sentait qu'il avait du mal à relâcher ses coups. Donc c'était un combat très serré, mais malheureusement son adversaire lui a réussi à le toucher à chaque fin de round, marquer le combat, essayer de finir le round en beauté avec des points. Et je pense que c'est ce qui malheureusement a été souligné par les juges qui ont clairement accordé la victoire à Alonso Menifield. Donc c'était un peu on était un peu frustrés et déçus. Je pense que Omar Sy l'a été également, puisque c'est quand même le deuxième Français dans la catégorie des heavyweights. On sait que le premier Français en heavyweight, c'est Cyril Gane, qui fait partie du top 5 de la catégorie, donc ce n'est pas rien. Et là, voir un nouveau Français qui arrive, qui tente de s'imposer, c'est super. On pense qu'il aura d'autres occasions de s'illustrer. Pour l'instant, il ne l'a pas fait samedi soir, mais on espère qu'il va pouvoir revenir rapidement.
Aucun lien de parenté avec le comédien qui reprend le Paris Basket. Hein.
Je l'attendais celle-là, mais pas du tout. Malheureusement, on aurait bien aimé. Ensuite, on a eu bien évidemment un autre combat, du coup, c'était lors de l'UFC 316. Alors, c'était un combat très attendu, c'était le combat contre de Mehram Dvalishvili. Attention, le prénom est assez compliqué, qui est actuellement le champion en titre des poids coqs, face à Sonomale, qui était l'ancien champion. Donc, il y a une certaine rivalité entre les deux, même une animosité. Il faut savoir que Sonomale, c'est clairement le champion du public. Le public américain l'adore, c'était même... la petite poule aux œufs d'or de l'UFC. L'UFC attendait beaucoup de ce champion qui, à la fois, est bon sportivement parlant, mais également qui arrive à attirer beaucoup de fans autour de lui. Et Mehram Dvalishvili, lui, au contraire, c'était le combattant qui monte. Sa caractéristique première, c'est déjà d'avoir un cardio hors du commun. Concrètement, les combats en 5 rounds, pour lui, c'est rien. C'est de l'eau, j'ai envie de dire. Il ne se fatigue très peu. C'est l'un des éléments qui marque beaucoup les esprits de ses adversaires, c'est qu'en fait il est très très peu fatigué lors des rounds, et en plus de ça c'est un combattant très explosif dans son approche du combat. Et sa deuxième arme, c'est qu'il a une lutte impressionnante, et clairement il est là pour boucher la catégorie littéralement, parce qu'il n'y a personne dans la catégorie qui a son niveau de lutte. Donc ça lui fait une arme plus que les autres, et en plus de ça, avec un cardio hors norme, c'est très compliqué. Donc la catégorie des poids coqs à l'UFC est une catégorie où il va falloir y mettre du cœur pour pouvoir récupérer la ceinture face à Mehram Dvalishvili. Donc du coup, ça, c'est ce qu'on a pu avoir aux États-Unis pour l'UFC. Mais on va quand même parler de ce qui s'est passé en France.
Bah, bien sûr, bien sûr.
D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent régulièrement, ici avec mon Paris FM, on suit beaucoup l'organisation Hexagone. On a notamment Mathieu Micourt de la Free Fight Academy qui nous rend régulièrement visite.
Ouais, un fidèle
de notre micro. Ouais. Et ses combattants aussi viennent régulièrement. Je pense à Nicolas Bivol et je pense surtout à Christopher Odena.
Un fidèle aussi.
Qui du coup s'est illustré à Reims pour le précédent Hexagone qui a eu lieu. Et ça a été une très bonne nouvelle pour lui parce qu'il a gagné. Donc Christopher Odena, pareil, combattant chez les Welterweight également, et qui essuyé une série de 2 défaites, et du coup c'était très important pour lui de récupérer une victoire, et du coup il a pu récupérer sa victoire face à un adversaire facile, mais contre un adversaire très compliqué. L'adversaire Cariel, Lévi Cariel, excusez-moi pour la prononciation de son prénom. Il faut savoir que Lévi Cariel a mis le KO le plus rapide de l'organisation, 5 secondes.
Ouf.
Un KO en 5 secondes. Ouf. Donc du coup, c'était un adversaire pour lequel il fallait énormément se méfier. Le game plan, après avoir discuté avec Christopher, parce qu'on a pu aller à Reims et on a pu du coup l'interviewer.
C'était bien.
Il avait quand même mis des précautions face à son adversaire. Donc du coup, c'était d'éviter de se laisser rapidement déborder par Cariel, puisqu'on sait qu'il est capable de vous mettre KO en 5 secondes. Donc le but, c'était de ne pas se faire toucher dans les premières secondes du combat et de rapidement mettre une certaine distance et de l'amener au sol. Game plan que Christopher Odena n'a pas du tout respecté, parce que dès les premières secondes, il s'est fait toucher. On le voit tomber et... un coup du sort incroyable. Il faut dire que Christopher Odena a une capacité à encaisser les coups hors normes. Il a réussi à se relever. Il a amené son adversaire à contre la cage et il l'a amené au sol. Et ensuite, le combat, concrètement, ça a été ce qu'on appelle du ground and pound. C'est-à-dire c'est de maintenir son adversaire au sol et de lui asséner des coups. Ce qui a permis à Christopher Odena de gagner et remporter sa victoire.
Il était tellement malheureux quand il perdait, il venait à notre micro.
Malheureux, effectivement un peu déçu, mais on sait que c'est un combattant qui fait preuve de pugnacité. Concrètement, il ne lâche rien. Et d'ailleurs, on tient à rappeler qu'il a quand même 41 ans. Donc 41 ans, combattre encore à son âge, ça force le respect. Et voir qu'il a une posture toujours autant athlétique, il est en forme, il combat à ce niveau-là. Donc nous, on est toujours impressionnés, on a toujours à cœur, ça nous fait toujours plaisir de l'inviter, quoi. Donc voilà ce qui se passe, on va dire, pour l'actualité française. Mais ce n'est pas fini, parce qu'on a quand même une bonne nouvelle, c'est le retour de l'UFC. L'UFC qui va revenir en septembre.
Oui, j'ai lu ça sur Bertie, je crois que c'est
septembre, le 4 ou le 6. Alors on va vérifier.
Oui, j'ai lu ça, ouais.
Du coup, le 6 septembre.
Voilà.
Ouais. Et du coup, ce sera le 4e pari. Et là, du coup, la question est, quel combattant va combattre à l'UFC? Donc on espère... clairement, en fait, la vraie question, c'est pas tant qui va combattre à l'UFC Paris, mais quels seront les combattants en main event. Mmh. Puisqu'on hésite entre Nassourdine Imavov, qui est le numéro 1 de la catégorie des lourds légers. Donc ça, c'est super intéressant, sachant qu'il a battu l'ancien champion, le grand champion Israël Adesanya, par KO en plus. Donc quelle victoire incroyable. On a également Cyril Gane, qui clairement... et le futur potentiel adversaire pour la ceinture, puisque visiblement, John Jones, le champion actuel, ne veut pas combattre.
Ouais, et très bon footballeur, hein. Cyril Gane en plus.
Alors, oui. Il faut savoir que Cyril Gane est bon en tout.
Ah, c'est bon, d'accord.
Il faut savoir qu'il fait du... Non, mais c'est vrai, vraiment, on l'a vu des vidéos de lui, où il fait du basket, il était excellent en basket, il sait jouer au foot, bref, il sait tout faire. Et en plus, en champion de boxe thaï, donc bref, rien ne l'arrête, Cyril Gane. Et apparemment, il a sorti, du coup, son film. Pour ceux qui n'ont pas regardé, il y a un film avec lui sur Netflix. Donc, est-ce que ce sera Cyril Gane? Est-ce qu'on aura le retour de Benoît Saint-Denis?
Oui.
Morgan Jean. Donc, on a une pléthore de combattants français qui vont peut-être pouvoir combattre à l'UFC, se présenter à l'UFC, donc l'UFC Paris. Donc, on ne sait pas où donner de la tête, mais on espère vraiment avoir un retour de ces combattants très prochainement. Donc, ça, c'est au niveau de l'actualité française. L'actualité française est encore bien riche puisqu'on a pas mal d'organisations, on a eu les combats d'Arès, etc. Donc leur dire qu'en France on est fourni et là on attend de voir ce que l'avenir nous prépare.
D'accord.
Donc c'était tout pour, on va dire, l'UFC, pour l'actualité MMA en France.
D'accord, bon bah il y aura cet été, tu reviendras à la rentrée nous en parler.
Ah, clairement. Ah,
avec peut-être aussi un magazine sur mon Paris FM. Sans discussion, pour toi.
Clairement, ce serait top.
Très bien, merci, tu restes avec nous. Eric, vous aimez tous les sports?
Ah oui, moi j'aime bien tous les sports, et notamment suivre un petit peu les Français dans les différents sports en compétition. Je trouve ça chouette, et tout ce qui est au niveau d'une manière générale. Ouais.
Très bien. Tiens, Alexandre, on va changer un petit peu. Tu vas nous faire le journal Omnisport de cette quinzaine. Comme ça, ça nous fera aller jusqu'à la pause musicale avant de parler de Subuteo.
Philippe, là, c'était un journal des sports très dense. Hein,
parce que t'as du retard, t'étais pas là il y a 15 jours.
Je vais commencer par les 24 heures du Mans.
Ah oui, c'était l'événement du week-end quand même.
Voilà, cette année, c'est la Ferrari numéro 83 qui a gagné, pilotée par le trio Robert Kubica, Yefei Ye et Philippe Hanson.
Un Polonais, un Japonais et un Anglais.
Première
victoire de Japonais.
Une autre Ferrari s'est hissée sur le podium, la numéro 51 d'Alessandro Pierguidi, James Calado et Antonio Giovinazzi. En Formule 1 aussi, Piastri a remporté le Grand Prix d'Espagne et George Russell celui de Montréal.
Circuit de Gilles Villeneuve là-bas. Ouais.
Absolument. Et au classement, du coup, c'est les deux McLaren de Piastri et Norris qui sont leaders. Verstappen est troisième. Donc je le rappelle à chaque fois, mais c'est vraiment une grosse saison de McLaren qui a vraiment les meilleures voitures. Mercedes est deuxième au classement des constructeurs et Ferrari troisième. En moto et le Grand Prix d'Aragon, les frères Marquez, comme d'habitude, ont fini devant et Francesco Bagnaia troisième. Au classement des pilotes, c'est pareil, hein, les deux frères Marquez avec Marc devant et Alex derrière sont leaders et Francesco Bagnaia est troisième. En rallye, belle victoire de Sébastien Ogier qui a remporté le rallye de Sardaigne, Philippe, la semaine dernière devant Aude Tanak. Et au classement, justement, Ogier remonte à la deuxième place, juste derrière le Britannique Elfyn Evans, et passe devant Rovan Perra et Tanak.
Alors, pour finir sur la rubrique des sports mécaniques, il y a un film qui sort sur le Dakar Chronicle, qu'on a eu l'occasion, nous, la presse, de voir en avant-première. C'est cinq grands noms du Dakar 2023, dont Sébastien Loeb et puis Peter Ancel. On vit au quotidien, c'est un film sympa, donc allez le voir si vous pouvez.
Voilà. Voir. Et en plus, cet été, il y a aussi le film F1 qui sort aussi. Avec notamment Tom Cruise, je crois. Non, c'est pas Tom Cruise.
Je sais pas. Je peux pas te dire.
En tout cas, bon, je passe en tennis. Ça va faire plaisir à Vanessa. Peut-être qu'elle va pouvoir nous dire 2-3 trucs.
Elle a pas raté une balle, Vanessa. Elle a pas raté.
C'est un secret pour personne, Vanessa. Tu peux annoncer le vainqueur de Roland Garros.
Oui, bien sûr, Carlos Alcaraz, au terme d'un match juste incroyable.
Ce que j'allais dire, la plus belle finale de l'histoire. C'est Carlos Alcaraz qui remporte son deuxième Roland Garros de suite.
T'as les 7
Oui, oui, bien sûr.
Ah, dis-le, pas sûr. Non, mais c'est révélateur.
C'était incroyable. Donc, ouais. 2-7 à 0 pour Sinner au début. 6-4-7-6. Voilà. Et 3 balles de match pour l'Italien.
Voilà. Au 4ème set.
Ouais. Au 4ème set. Et puis, renversement de situation. Ouais. Alcaraz qui gagne les 3 sets suivants, 6-4, 7-6 et 7-6.
C'est-à-dire 3 time break dans le match quand même.
Exactement.
Hein,
et à la fin, on connaît super
time break. 29.
5h29, ouais. C'est ça. Et super tie break à la fin. Ouais. Et Carlos Alcaraz qui gagne 10-2. Donc, c'est vraiment une énorme performance des deux joueurs. C'est la première fois où on avait vraiment envie que les deux gagnent. Parce que c'était tellement
vraiment.
Et du côté des femmes, par contre, là j'étais content pour une fois. C'est Coco Gauff, américaine, qui gagne cette finale. Parce que d'habitude, à chaque fois, elle perd en demi ou en finale directe. Là, pour une fois, elle a gagné. Et ce qui est intéressant, ce qu'on en discute avec un ami, c'est qu'à chaque fois dans le tennis, c'est que c'est souvent tout le temps les premiers et deuxièmes mondiales qui se retrouvent en finale. Donc, c'est vraiment la logique qui est respectée. Donc, là, justement, la finale chez les filles, c'était Coco Gauff contre la numéro 1 mondiale, Sabalenka, remportée 2-7-1. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, l'énorme performance de la française Loïse Boisson.
Elle sort des qualifs quand même, c'est incroyable.
Elle sort des qualifs, c'est incroyable, qui perd en demi contre la numéro 2 mondiale, donc Coco Gauff, justement. Mais c'est déjà absolument incroyable qu'elle soit en arrivée là.
Et puis moi, j'ai eu un autre match qui m'a marqué. C'était le match Shelton Alcaraz aussi, la semaine d'avant. Ça, c'était aussi un beau match.
Ah, franchement, c'est du tennis de haut niveau dont on a eu
la plus belle finale de Roland Garros de l'histoire. Hein,
il y a Wimbledon qui arrive là.
Alors, il y a eu d'autres belles finales. Hein,
bien sûr.
Wimbledon, McEnroe, je me rappelle. McEnroe-Borg.
McEnroe-Lendl.
En plus. Mais il y a eu d'autres belles finales. Mais celle-là, sur Roland Garros, c'est la plus forte, c'est la plus belle.
Il était vraiment
exceptionnel.
En cyclisme, rapide résultat du Tour d'Italie. Donc, c'est Simon Yates, qui l'a gagné en 82h et 31 minutes. Et concernant le Dauphiné libéré, c'est Tadej Pogacar qui s'adjuge la course. Pogacar encore favori, comme toujours.
Et qui marque psychologiquement un bon point par rapport à Vingegaard. Voilà.
Donc, tes pronostics pour le Tour de France, Philippe?
Pogacar aussi. Mais j'aimerais bien que ce soit plus serré quand même pour le Tour. Hein.
Bah, on aimerait bien, ça c'est sûr. En judo, aucune médaille ce lundi dans les championnats du monde de Budapest. Pour l'instant, les Bleus comptent 3 médailles. Une de bronze, une d'argent et une d'or. Mardi, 3 Français sont alignés. La championne du monde Margot Pino en moins 70 kilos chez les femmes. Le médaillé de bronze olympique Maxime Gaël, Gaillap, Ambou et Alexis Mathieu en moins de 90 chez les hommes. Donc on attend les résultats de demain pour le judo. En athlétisme, rapidement, énorme Armand Duplantis.
12e record.
Franchement, il est.
6m28.
Il est incroyable.
6m28.
On pensait que Chrono Lavillenie, il était au-dessus. En fait, Armand Duplantis, il l'a vraiment envoyé à la retraite rapidement.
6m28.
6m28. Ouais. Chez lui, en plus, à Stockholm, le Suédois.
Alors, attends, il y a Charletti le 21 juin, là, vendredi.
Ouais.
S'il est là, il va peut-être tenter un nouveau record.
Il va sans doute venir.
Ouais.
On l'espère en tout cas. Et il bat justement, en plus, il bat son précédent record qui date du 28 février 2025 et de 6m27. Donc il a gagné 1 cm.
Comme Butka.
Voilà. Mais c'est incroyable. Ouais. Vraiment incroyable. En rugby, on a le classement final de la saison régulière de Top 14. Le Stade français et le Racing 92 se sont maintenus.
Ouf, on souffle.
C'était compliqué, hein, franchement.
Surtout pour le Stade français.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais à mon avis, il va y avoir beaucoup de mouvements cet été dans le club parce que c'était une saison compliquée. Mais du coup, aucun club francilien ne s'est qualifié pour les phases finales. Et en demi des play-offs, donc on aura l'Aviron Bayonnais qui affrontera le Stade Toulousain et Bordeaux Bègle qui jouera contre Toulon. Rappel des résultats des barrages pour la montée. Montauban a battu Grenoble 24-19.
Oui, alors Montauban, ils sortent des play-offs de Pro D2. Hein.
Oui,
c'est assez exceptionnel. Ils n'ont pas fini premier de la saison régulière. Oui. Et finalement, c'est eux qui vont monter, qui vont remplacer Vannes. Et Grenoble qui a perdu la finale, ils perdent pour le maintien de barrage contre Perpignan.
Ils ont un peu tout perdu.
Ouais, 13-11.
Voilà, ils ont perdu 13-11, c'est ça.
Donc c'est vraiment pas l'année de Grenoble. Hein. Ils ont pas de chance. Voilà. Donc Montauban qui remplacera Vannes la saison prochaine en top 14.
En basket, Paris. Play-offs. On est francilien, donc on dit allez Paris, bien sûr. Donc le Paris Basket gagne pour l'instant 1-0 contre Monaco grâce à sa victoire hier 94-82.
Le choc des titans.
C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment les deux meilleurs clubs français finalement qui s'affrontent et ça fait plaisir. Donc c'est du haut niveau. Deuxième manche, c'est demain à 20h30. Et finale des playoffs en NBA aussi, c'est important de le rappeler. Pour l'instant, deux partout entre les Thunders d'Oklahoma et les Pacers d'Indiana. Cinquième manche, restez éveillés. C'est cette nuit à 2h30, pour ceux qui veulent la regarder. En tout cas, c'est du haut niveau aussi ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique.
T'imagines Paris, champion de France en foot, Paris, champion de France en handball, tu vas en parler, et puis Paris, peut-être champion de France en basket. C'est bien, hein, Eric.
C'est magnifique.
Hein, c'est bien.
C'est rare. Ouais.
Mais globalement,
que les planètes soient alignées comme ça. Ouais.
Globalement, dans le sport français, bah, on l'a suivi toute l'année ici. Il y a eu quand même des bons résultats. En rugby, on a vu les deux clubs français qui ont remporté les compétitions européennes. Même en handball, ils ont fait, je vais en parler là, des bons parcours. Ouais. Donc justement, c'est le PSG. Qui est champion de France en handball, qui termine devant Nantes, à 4 points devant Nantes. Concernant les autres clubs franciliens, bon, là, c'est malheureusement fini. Ça fait 2 ans maintenant que je suis là, ça fait 2 ans que je le dis à chaque fois.
Enfin, le Tremblay en France se maintient.
Créteil
et Ivry, malheureusement.
Se maintient, mais malheureusement, donc Créteil et Ivry qui passent à la trappe et qui joueront la Pro League l'année prochaine.
Et pourtant, c'était des villes de
Hand. Autant Créteil, on y a cru jusqu'au dernier match, mais Ivry, bon, ça fait un moment que c'est compliqué. Et en Ligue des Champions, dans le carré final, Nantes termine 3e après avoir battu le FC Barcelone 30-25. Et Magdebourg gagne cette Ligue des Champions en ayant remporté la finale 32-26 contre Berlin.
Ouais, c'est sa 5e victoire, hein, pour les Allemands. Ouais. Et chez les femmes ?
Chez les femmes, donc le Paris 92 termine sa saison à la 10e place. Et le Stella Saint-Maur est maintenu à la 13e place. Le club de Metz a gagné le championnat juste devant Brest-Bretagne. Et en Ligue des Champions féminine, dans le carré final, les Messines finissent 4e après leur défaite contre Esbjerg 30-27. Et c'est le club de Dior chez les filles qui gagne la compétition après la victoire finale contre Odense 29-27.
Voilà et pour puis, ce bilan très très complet. Oui.
Je voulais rajouter un petit mot, puisqu'on a en paratriathlon, on a eu 7 médailles ce week-end, dont 2 médailles d'or avec dans ces 2 médailles d'or. Le 8e titre donc d'Alexis Anquincan, le souligner.
C'est bien.
Championnat d'Europe. Hein, championnat d'Europe. Donc 8 fois champion d'Europe.
Très bien. Et on voulait justement, comme on arrivait au terme de certaines carrières, on voulait rendre un petit hommage à Richard Gasquet, hein, qui s'est arrêté à Roland-Garros.
Que j'ai vu à la fan zone de la Concorde, parce que j'y étais le mercredi de la dernière semaine de Roland-Garros, qui est venu donc saluer le public. Oui. Cette fan zone de la Concorde qui a d'ailleurs accueilli 32 000 spectateurs.
Une bonne idée, hein, de la
fédé. Oui, une super idée. Ouais. Puis le dimanche, évidemment, le mercredi, on pouvait encore venir. C'était encore accessible. Enfin, on pouvait venir. Mais ce que je veux dire, c'est que le dimanche, évidemment, c'était plein. Voilà.
Mm-hmm. C'était un bel adieu, en tout cas, quand il a quitté le cours. Mm-hmm. C'était assez touchant.
Mm-hmm. Alors aussi, un hommage pour Romain Bardet, hein, qui s'est arrêté hier sur le Dauphiné libéré. Oui. Et puis, je voulais aussi rendre un petit hommage, puisqu'on en avait parlé, on l'avait interviewé, on avait promis que ce serait un feu d'artifice pour elle, si elle faisait le tripé. C'est Cléopâtre Darleux, hein, qui
m'a envoyé.
Superbe fille, hein. Charmante fille, hein. Elle fera que le doublé, mais il y a quand même donc un véritable feu d'artifice qui va quand même se faire pour elle. Il y a aussi sa coéquipière Alison Pinault qu'on voulait féliciter. Donc ce sont des grands noms du sport français qui vont
les nouvelles générations qui arrivent, qui est
mettre un terme à leur carrière. Oui, bien sûr, mais voilà, on voulait leur tirer un grand coup de chapeau. Allez, la pause musicale et ensuite on va tout savoir sur le sport vidéo et vous allez voir que c'est un véritable sport.
You used to call me on mine. You used to yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You made me feel like I did you wrong.
going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching road? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city,
voilà, donc on va, comme promis, parler maintenant de Subutéo avec notre ami donc Eric Nazali. Eric, cette passion du Subutéo, elle arrive comment? Vous avez joué au foot comme tout le monde?
J'ai joué au foot, alors j'ai joué au foot en club aussi. Ouais.
Quel club?
Vaucresson, ouais, notamment. Comment je veux dire, donc j'ai eu le jeu qui m'a été offert à Noël par ma tante quand j'avais peut-être 8-9 ans, quelque chose comme ça. Mon cousin jouait, il est un petit peu plus grand que moi. Et puis ensuite, il y a eu un tournoi dans un magasin de jouets à Suresnes, là où j'habitais, que j'ai gagné. J'ai gagné le tournoi débutant. Parallèlement au tournoi débutant, il y avait un tournoi pour les, on va dire, les joueurs confirmés. Mm-hmm. Donc j'ai vu comment ils jouaient et puis voilà, ouais, je me suis pris au jeu et rapidement, j'ai commencé à jouer régulièrement en compétition.
Oui, parce que bon, on va redire, au départ, c'était une marque, le Buteo. C'était pas un sport, hein.
Au départ, c'était une marque, donc ouais, il y a eu des compétitions qui se sont greffées sur la base du jeu de Subutéo. Et puis au début des années, on va dire à fin des années 80, début des années 90, il y a plusieurs fabricants complémentaires qui ont commencé à faire du matériel destiné à la compétition. C'est un peu comme si vous achetez une raquette de tennis chez Decathlon à 10 euros ou si vous achetez une raquette Babola à 300 balles en carbone pour jouer, ouais, voilà. On a la même différence de matériel entre ce qu'on va acheter dans le commerce et ce qu'on va acheter pour jouer en compétition.
En fait. Moi, je me rappelle de messages publicitaires à la télé de nos amis Larquet et puis Roland. Tiens, ça tombe bien, ça fait 13 ans pour Thierry, ouais, donc, pile, ouais, aujourd'hui. Donc, une pensée pour lui. Mais oui, au départ, c'était les jeux qu'on offrait pour Noël ou pour...
Ah oui, c'était un jeu qui était beaucoup diffusé. Il y a, ouais, eu des centaines de milliers de boîtes qui ont été vendues entre, on va dire, les années 1975 jusqu'à, ouais, 95, quoi, grosso modo en France, hein, pendant 20-25 ans. Il y a eu des...
Alors, c'était justement, 50 ça tombe
à, 50 à, ouais, 80 000 boîtes par an, les, ouais, coffrets de jeux, plus, ouais, toutes les équipes individuelles.
Donc, ça tombe bien, on a un fan de ce jeu qui est venu nous rendre visite, du coup, oui, il va participer à ce micro. C'est notre ami Bruno Pasco. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Philippe. Ouais.
Bon, le Subutéo, c'est un jeu d'enfance. Hein.
Alors, on parlait d'affiches et de publicité. Ouais. Je suis retombé sur le net sur une affiche où Raymond Coppa faisait de la, absolument, promotion.
Avec, ouais, la marque de Lacoste à l'époque qui importait, voilà, le Subutéo, c'était Raymond Coppa, l'ambassadeur.
Et apparemment, l'historique du jeu remonte à un Anglais qui s'ennuyait ou un aviateur américain ou anglais qui a créé apparemment ces balbutiements de ce jeu. Mm-hmm. Et moi, je l'ai découvert...
Peter Adolf en 47.
Voilà.
Ah, c'est bien connu.
Donc, je ne dis pas de bêtises.
L'histoire de transport, c'est, voilà, bien.
Et du coup, ce jeu, moi, il m'a... Bah, à l'époque, on n'avait pas de comme on appelle
jeux
ça.
De
jeux vidéo, merci.
Oui.
Et on avait ce truc-là. Et moi, alors là, je me suis pris de passion pour ce truc. En plus, il y avait une boutique qui vendait pas mal d'articles là, parce qu'il y avait effectivement, à l'époque, beaucoup de choses à mettre autour.
Les accessoires.
Voilà,
accessoires,
la tour de télévision, les projecteurs.
Un vrai stade, quoi.
Un vrai stade.
Et moi, j'avais construit des tribunes avec des boîtes à chaussures. Je trouvais que ça allait très bien. En coupant en biais la boîte à chaussures, gardant le couvercle, on faisait de super tribunes. Voilà. Et je découpais dans les journaux style télé 7 jours de l'époque toutes les publicités pour coller sur les petites barrières. Et j'avais mon vrai stade.
C'est ça. Gérard Darmon avant l'heure.
Et Philippe, tu es venu chez moi sur la table de ping-pong. On avait des copains, on avait tous entre 16 et 17 ans. On n'était pas tout jeunes quand même. Enfin, pas tout jeunes. On était plus en âge de jouer avec des petites bricoles, quoi, des petits jouets. Et bah si, et on s'éclatait les mercredis après-midi.
Ah bah c'est un peu l'histoire des années 75 jusqu'à 95, hein, justement. C'est le jeu entre potes, le meilleur jeu de foot miniature, en fait, qui permettait de reproduire les sensations du foot sur une table miniature et à la maison.
Ouais.
Donc, en général, on est tous passés par la case football, quasiment tous, plus Subito. Et il y a aussi des gens qui ont joué que au Subito sans forcément jouer au foot parce que...
Oui.
Il voulait pas forcément.
Plutôt que de jouer aux cartes, moi, je crois.
Voilà.
Ouais. Alors, quand est-ce que. Et comment ça devient un sport? Comment.
Alors, la première association sportive de créer des clubs et France,
de faire des compétitions.
L'association française, au départ, c'était en 1980 qu'elle a été créée. Donc, les premiers championnats de France remontent à 1980.
Oui, donc à cette époque-là. Ouais, ça.
Et puis, les premières compétitions par club en parallèle des compétitions individuelles. Donc, par équipe, en fait, on va jouer 4 matchs en même temps, un petit peu comme une Coupe Davis où on jouerait 4 matchs individuels en même temps. Donc, 4 joueurs d'une équipe vont jouer contre 4 joueurs d'une autre équipe. Et c'est le résultat global, 2 victoires à 1, 3 victoires à 0, 0-0, enfin, qui va faire le résultat global. Première compétition par équipe, c'est arrivé en 1982, en France, en tout cas.
L'année de la Coupe du Monde.
L'année de la Coupe du Monde, oui.
Triste mémoire.
On a tous pleuré.
Allemagne-France-Séville. Ouais.
Et donc, petit à petit, tout un circuit de compétition s'est installé. Des tournois, droite à gauche. Donc, championnat de France, Coupe d'Europe, Champions League, Coupe du Monde. Et bien entendu, comme toute discipline pratiquée à un haut niveau, bah, quand on veut performer, il faut avoir des facultés mentales, techniques, tactiques. Il faut être prêt physiquement aussi. Parce que même si on ne tourne pas beaucoup autour de la table, la répétition des matchs, la concentration fait que on transpire, on se fatigue aussi. La tension mentale qu'il faut pour jouer des matchs de demi-temps de 15 minutes. Et c'est un petit peu comme si on jouait au billard en compétition ou aux échecs en compétition.
Ça peut s'apparenter justement au billard et puis aux échecs. Il y a beaucoup de stratégies quand même.
Il y a beaucoup de stratégies qui s'apparentent au billard, aux échecs, un petit peu au handball aussi, avec la ligne de zone de tir que vous ne voyez pas à la radio, mais qui vient en fait couper la moitié de terrain en deux. Le terrain est coupé en quatre en réalité, avec une zone qui est intermédiaire entre la surface de réparation et la moitié de terrain. Et cette zone délimite ce qu'on appelle la zone de tir. Donc la défense se positionne surtout pour protéger l'accès à cette zone, un peu comme au handball où la défense va finalement empêcher l'accès à la zone de but. Donc toutes ces stratégies qui vont consister à contourner la zone ou au contraire à la traverser vont effectivement demander énormément de tactique et s'apparenter au handball ou au billard avec les angles sur le ballon.
Donc les premières compétitions 82, ça veut dire qu'il y a des
80,
clubs
oui, en 80, France, 80
ça veut dire qu'il y a des clubs qui se structurent, il y a des fédérations, des associations qui se créent,
des ligues régionales.
Et vous en êtes à l'origine?
Alors non, j'en suis pas à l'origine parce que moi j'avais 14 ans quand j'ai commencé à rentrer au niveau de la fédé en 80. J'ai été secrétaire de l'association, j'avais 16 ans, donc ça devait être en 80.
Bon, on ne demande pas l'âge, quel âge vous avez, Eric?
J'ai 58 ans.
Ah, ouais, un peu plus vieux, moi.
Donc, j'ai commencé à créer mon premier club à Issy-les-Moulineaux en 1991, donc, qui a été hier champion de France pour la 20e fois de suite.
Bien.
Donc, le club a 34 ans. J'ai quitté la présidence à la fin des années 90, donc ça veut dire que le club a perduré, parce que la difficulté dans nos disciplines, quelles qu'elles soient d'ailleurs, c'est d'arriver à ce que les clubs, de quelle que soit l'activité, finalement survivent aux fondateurs, si je puis dire. Donc moi, je suis toujours membre, mais quand j'ai arrêté de jouer, d'autres ont pris la suite. Donc on a eu différents présidents à Issy-les-Moulineaux entre-temps. D'ailleurs, c'est mon fils et puis Théo, un de nos joueurs qui sont co-présidents aujourd'hui. Donc ça se transmet également de père
en
fils.
Tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Un petit peu comme dans d'autres disciplines. Ouais. On parlait du hand tout à l'heure. Ouais. Richardson, ouais. Voilà, une dynastie. Le rugby, ils sont nombreux aussi à avoir été père et fils internationaux. Ouais. Voilà. Donc on retrouve un peu cette transmission dans le football de table. Et puis effectivement, donc, je suis président de la fédération depuis 4 ans maintenant.
Il y a beaucoup de clubs en Ile-de-France.
On a une trentaine de clubs actifs au niveau national. On en a 5-6 en région parisienne. Et l'objectif, c'est de continuer la reprogression du football de table. Puisque grâce, on va dire, il faut bien que ça ait servi à quelque chose de bien, mais grâce au Covid, d'une certaine manière, et aux réseaux sociaux.
Ah oui, parce que...
Les gens ont ressorti les boîtes. On recherchait sur les réseaux comment on pouvait acheter, qu'est-ce qui se faisait, est-ce qu'il y avait des regroupements de joueurs et de clubs. Et du coup, grâce aux réseaux sociaux, grâce à TikTok aussi, ça nous permet de toucher toute une population de jeunes, notamment, qu'on aurait du mal à toucher autrement. Donc, ça nous permet de régénérer un petit peu le vivier de nouveaux joueurs. Et donc, on a des TikTok qui fonctionnent très bien. On a plusieurs qui dépassent les 200 000 vues, 300 000 vues. On en a plusieurs qui dépassent le million de vues aussi. Donc, voilà, ça montre qu'il y a toute une appétence pour le football de table. Ouais.
Alors, mon petit doigt m'a dit que vous alliez peut-être passer en e-sport. Non ? Quand même pas ?
Alors non, pas en e-sport.
Ah,
non,
ah ouais, quand même pas.
Non. Le e-sport, on a souvent opposé dans les années 90-95 le début des jeux électroniques.
Ouais, ouais.
FIFA. On appelait ça jeux électroniques à l'époque. Ouais. Oui, FIFA.
FIFA.
FIFA notamment au Subbuteo ou au football de table. En réalité, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est plutôt complémentaire. C'est-à-dire que les jeunes qui jouent beaucoup à FIFA sont aussi contents de jouer à ce qu'eux-mêmes appellent, c'est pas moi qui ai inventé la terminologie, mais FIFA en 3D. C'est-à-dire qu'ils vont reproduire... au football de table, ce qu'ils ont déjà fait sur l'écran. C'est-à-dire qu'on a bouclé la boucle, en fait. Hein. On est parti du 3D pour aller sur le virtuel, et maintenant, on revient de la télé pour refaire du 3D. Donc, c'est assez intéressant comme démarche, et ça montre que finalement, y a des enchevêtrements, ça se croise, ça vit, et voilà.
Je voudrais savoir à penser ce que Alexandre en pense. Tu connaissais, toi ?
Alors, oui.
Ah bah c'est bien.
Si, je connaissais.
T'es journaliste, donc c'est bien.
Oui, mais comme je disais, je jouais peut-être la marque Riva, je ne sais pas, mais quand j'étais plus jeune, à Total Football. C'est un petit peu différent, mais c'est un peu football de table aussi, avec un tapis, etc., des aimants aussi, avec les ballons, etc. Et du coup, moi, c'est toujours un truc que j'ai apprécié. Après, par contre, je ne savais pas du tout qu'il y avait des compétitions comme ça, des Coupes du Monde, des Coupes de France.
Pour ça qu'Eric est là.
Mais oui, c'est pour ça. Ah, et ça fait plaisir d'entendre que le club de ma ville, ici, le Molino, a été champion de France.
Ah oui, en plus,
20 fois de suite.
Oui.
Le petit chauvin.
Et on a été en demi-finale de la Coupe d'Europe, de la Champions League en 93 ou 14. On ne l'a jamais gagné. Je l'ai gagné, moi, avec Aubervilliers, avec deux acolytes du club. À l'époque, je jouais au club d'Aubervilliers en 85, la toute première. Mais avec ici, les Moïnaux, on n'a jamais fait de gros transferts internationaux, contrairement à nos rivaux étrangers, parfois. Mais on n'a jamais été au-delà de la demi-finale de la Champions League.
J'entends parler de transferts de nos rivaux internationaux. Ça veut dire que ce sport, j'appelle ça un sport, à l'étranger, il est aussi... développé, voire peut-être même plus qu'en France.
Ah oui, alors en Italie, c'est très développé. Ils ont eu aussi un creux. Nous, on a eu un creux, on va dire, entre 2000 et 2020 en France, à peu près.
C'est
on a eu un creux de 15-20 ans.
20 ans.
15-20 ans où ça avait vraiment baissé.
C'est vrai qu'on croyait qu'il était mort.
En Italie,
tout à fait d'accord.
En Italie, ils ont eu un creux d'une quinzaine d'années dans les années 90. Et à l'époque où nous, on était vraiment au top au niveau tant organisation que résultats sportifs en France, les Italiens étaient moins forts. Et là, ils ont repris beaucoup d'avance un petit peu sur nous. Parce que d'abord, ils avaient plus de monde au départ. Et là aussi, les années Covid et un petit peu avant Covid, tous les anciens sont revenus et ça fait du monde. Donc, et les nouvelles générations, etc. Donc, il y a effectivement des transferts. Le club de Caen, ici les Moulineaux, a battu hier en championnat de France, en finale du championnat. Caen avait cette année deux champions belges, le vice-champion du monde, Justin Leroy, et le champion d'Europe d'il y a 2 ans, Florian Giaud, qui jouait pour le club de Caen, par exemple.
Ah oui, quand même.
Eh oui.
Mais justement, vous venez de confirmer ce que je voulais te demander, mais est-ce qu'il y a des sections dans les clubs professionnels du coup ?
De foot ?
De foot, oui.
Ouais, alors il va tout dire, tu vas voir.
C'est une chose sur laquelle je travaille avec en particulier deux et peut-être trois clubs.
Et des prestigieux.
Et des clubs prestigieux. Donc, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, okay. Mais disons qu'on est, on est sur trois possibilités avec des clubs professionnels de foot qui n'ont pas de section e-sport et qui n'en veulent pas. Et ce qui est très intéressant dans leur démarche, parce que au début, moi, j'avais pris l'exemple en leur disant qu'il faudrait créer une section football de table comme il peut y avoir des sections e-sport. Et les trois avec qui on discute m'ont dit « On ne veut pas de section e-sport parce qu'on veut que les gens jouent ensemble. »
Ok. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Donc, je sais que les joueurs de FIFA réfutent cet argument avec force. Bon, enfin, au pu qu'on a le président de la section e-sport, Thomas, qui est un super pote. Il me dit souvent, mais non, mais on joue quand même ensemble quand on est avec l'écran, etc. Mais là, les clubs en question veulent vraiment qu'il y ait un échange physique entre les joueurs. Et...
On a le téléphone du président Ferracci au Paris FC, c'est vous.
Ah, ça m'intéresse.
Rentrez en contact, on vous le donne sans problème.
Ça m'intéresse. J'ai déjà eu un contact avec Monsieur Gobert au niveau de l'association, et c'est vrai que ça n'avait pas encore débouché. Ouais. Donc oui, ça m'intéresse. Et notamment aussi, ça nous intéresse parce que le football de table féminin, ça fonctionne très bien aussi. Oui, nos Françaises ont été... championne du monde à Rome en 2022. Elles ont perdu en finale en 2024 contre les Belges. Et j'espère qu'en 2026, on va pouvoir reprendre le titre. Et comme les féminines du PFC ont une magnifique équipe.
Et vont jouer à Charletti, vont continuer à jouer.
À Charletti. Ah, ouais. J'espère bien qu'on aura un jour à faire des animations. Clara Matteo, Gaëtan Tinet ou Cassia Bucci.
Oui, c'est sympa.
Magnifique.
C'est sympa.
Alors, moi, Philippe, j'ai une question.
En face du micro.
J'ai une question. Je vois monsieur qui commence à jouer avec les petits bonhommes qui sont installés devant lui. Alors moi, ce qui m'a épaté quand j'ai regardé les vidéos, c'est que nous, on plaçait nos joueurs de manière en WM, en 4-4-2, en 4-3-2. Et puis là, quand je vois les joueurs professionnels mettre en place leurs petits bonhommes, là, ils les mettent tous comme un mur.
Alors.
Et là, ça m'a paru bizarre. Donc ça, c'est une interrogation que je voudrais bien...
Comme l'handball.
Un peu comme au handball. Voilà. Alors ça vient du fait que le niveau technique des joueurs, grâce à l'évolution du matériel, a tellement évolué qu'on arrive à faire des gestes qui sont plus faciles maintenant, même pour les débutants, qu'il y a une vingtaine d'années ou 30 ans avec le matériel Subbuteo d'origine. Donc la technique ayant évolué, on est obligé d'adapter aussi la tactique. Maintenant, quand on débute ou quand on a envie de jouer entre guillemets football, on peut aussi. D'ailleurs, moi, je reprends toujours l'analogie avec le foot. Notamment dans les animations qu'on fait avec d'anciens entraîneurs de foot ou toujours entraîneurs de foot d'ailleurs, pour montrer les tactiques, le 4-4-2 face à un 4-3-3, comment ça marche,
pour les entraîneurs,
les tactiques de Guardiola, la conservation de balle où on va tourner par rapport à la transition rapide de Jürgen Klopp, voilà, ça on arrive à l'illustrer sur un terrain, mais ça n'a aucun intérêt en compétition parce que ça va être contre-productif. Donc le jeu a cette versatilité en fait qui permet de faire à la fois du foot miniature vraiment comme on veut, 4-4-2 face à un 4-3-3 ou un 3-5-2, et en même temps des tactiques de compétition qui sont adaptées à la compète. En réalité, si vous regardez l'évolution du tennis, Vanessa va peut-être en parler tout à l'heure, mais on va regarder un match Connors-Edberg des années 85, c'est plus du tout le même jeu que Alcaraz-Sinner. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est plus le même jeu en fait. Moi, j'adorais le jeu aérien qu'on a eu jusqu'à Federer, finalement, et c'était déjà un extraterrestre, parce que c'était le seul quasiment à faire du service volé.
Quel beau tennis,
Quel beau tennis, et dans les années 80, c'était ça. Mais l'évolution des raquettes, Yannick Noah, c'est le dernier à avoir gagné Roland-Garros avec une raquette en bois.
En bois,
c'est le dernier à avoir gagné un grand chelem avec une raquette en bois. Et le jeu, maintenant, c'est boum-boum. Donc, c'est plus le même jeu. Nous aussi, l'évolution du matériel fait qu'il y a des évolutions tactiques.
Effectivement, je m'aperçois que les petits bonhommes qu'il y a devant nous, qui datent de 98, puisque c'est le Subbuteo 98, les petits socles ne sont plus du tout les mêmes
Ce n'est pas le même que ceux qu'on utilise nous, et ce n'est pas le même non plus que les Subbuteo des années 75.
Oui, parce que tout a changé. Alors, justement, on va le dire. Aujourd'hui, il y a des feutrines différentes. Et puis, même les petits bonhommes.
Les petits joueurs.
Aujourd'hui, il y a plusieurs fabricants. Il y a des fabricants de matériel de compétition et il y a toujours des fabricants de matériel pour le jeu et le jouet, on va dire, à vendre en boutique. Il y a Subbuteo toujours, il y a Zuego en Italie, il y a Top Spin. Enfin, ils sont trop
ouverts. Il y en a beaucoup, on peut en trouver beaucoup en France.
Alors,
dans la région parisienne.
Ce qui complique l'univers pour les magasins de jouets ou jeux, c'est l'évolution du foot. Ça paraît paradoxal, mais le foot, c'est jamais autant consommé. Mais à l'inverse, maintenant, pour arriver à mettre une équipe PSG ou Marseille ou machin, il faut payer des droits. À l'époque, il n'y avait pas besoin. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on aimait bien. Moi, j'étais gamin, je faisais la collection des équipes que j'achetais. On en parlait tout à l'heure, Eintracht Francfort, Saint-Etienne, Dortmund, machin, Liverpool. Donc il faut payer les droits. Et l'autre élément qui a beaucoup changé, c'est que maintenant tous les clubs changent de maillot chaque année.
Ah oui, c'est bon en plus.
Or, vu que c'est plus fabriqué en Europe, ces choses-là, l'usine est en Angleterre. Avant, maintenant, ça, c'est fabriqué en Asie du Sud-Est. Donc, il
comme
faut
par hasard.
Mois, il faut 5 mois pour les avoir. Donc, pour avoir les équipes au mois d'octobre, il faut les commander au mois de mai. Mais au mois de mai, le fabricant, il ne sait pas comment va être le maillot.
Comment va être le maillot.
Donc, il ne va pas commander 5000 Lille s'il ne sait pas quel va être le maillot de la saison prochaine. Du coup, ça a énormément tué, finalement, la vente d'équipes pré-peintes. Mais... parallèlement, il y a le DIY, enfin il y a le do-it-yourself qui s'est un peu développé, façon un peu Cultura. L'idée, c'est de vendre des équipes blanches et puis avec le kit de peinture, peins ton équipe toi-même et voilà, comme ça, ça fait un peu...
Tu fais du travail, ouais, travail manuel.
Alors, c'est bien, alors, ça développe tous les sens.
Moi, j'étais nul en peinture, mais...
Alors, justement...
fallait qu'on fasse nos tâches. Ouais.
Comment font les clubs? Alors, parce que bon, vous avez dit, il y a combien de clubs en...
Une trentaine de clubs en France actifs.
En France, comment ça se passe? D'abord, le prix de la licence et de la cotisation, pour si on veut entrer.
Alors, la cotisation sport-loisir, on va dire, donc ce qu'on appelle la licence subito, elle est juste à 10 euros la part fédérale. Elle est très, très basse. Et la licence compétition est à 25 euros.
Parce qu'on va rappeler qu'il y a une fédération française.
Ah oui, 3fts.fr. Donc, pour ceux qui veulent regarder, il y a 3fts.fr, c'est le site, on va dire, de compétition.
On va dire ce que c'est, fédération française.
Et france-subito.fr, c'est le site un peu de présentation pour... on va dire les anciens.
Voilà, c'est ça.
Sans faire. Hein,
alors, après, donc, les clubs, ils fournissent les tables, ils fournissent...
Oui, oui,
comment
les clubs,
ça se passe?
Dans les clubs, il y a des tables pour jouer, il y a des horaires on va dire, d'entraînement, même si on n'est pas obligé d'arriver au début et à la fin, comme dans un entraînement de foot, si on travaille tous à côté. Donc, par exemple, au PUC, on a les entraînements le samedi matin de 10h à 13h.
Et vous avez des salles appropriées?
Alors,
des places, des gymnases, des salles.
Club, on le fait dans le social club parce que c'est là où il y a le plus de passages, donc c'est une belle vitrine pour
d'accord.
nous. C'est une belle vitrine pour nous. Dans d'autres clubs, ils ont des salles où les tables restent en permanence, donc c'est aussi très bien. Et puis il y en a certains clubs qui se réunissent dans des gymnases, effectivement. Donc il y a tous les cas de figure en fait. Mais d'une manière générale, le matériel peut être prêté à ceux qui veulent venir découvrir par les joueurs du club en question. La liste des clubs est sur le site 3fts.fr. Donc 3F, oui, Fédération Française de Football de Table Sport.
Voilà, pour être précis,
3fts.fr. Vous nous retrouvez aussi sur les différents réseaux, TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram, sur France Subutéo. Et puis sur YouTube aussi, où il y a pas mal de vidéos tutoriels. Il y a des extraits de matchs de compétition, il y a des top buts.
Alors comment se passe une compétition? Il y a des championnats réguliers.
Ah, tous les ans, oui.
Ouais,
tous les ans.
Tous les ans, oui. Donc, ça se passe comment? Comme au foot, il y a Ligue 1, Ligue 2.
En individuel, en France, on a Ligue 1, Ligue 2, enfin Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, on va dire, au niveau national.
Donc,
avec des
les meilleurs clubs, sur lesquels, Ligue 1
les meilleurs clubs, c'est ici, Limoges et Caen.
Voilà.
Le troisième qui a fini troisième sur le podium, puisqu'on vient de jouer hier à La Morlaix, hier et avant-hier, le championnat interclub. Donc, il y avait 8 clubs en première division. Donc, c'est le club de Puy-Laurent dans le Tarn qui termine troisième.
Ah, quand même, dans le Tarn.
Et oui, et Champs-sur-Marne qui termine quatrième.
Donc, ça veut dire qu'on va très loin. On se déplace très loin.
Ah bah, on
fait
les
matchs
de
compétition.
Toute la France, oui.
On prend le train, on prend la voiture, on prend les...
On essaye de ne pas trop prendre l'avion, mais on prend le train, on prend la voiture. et on se retrouve un peu dans toute la France. On a des clubs en Lorraine, en Alsace, en Bretagne, dans le Sud-Ouest, dans le Nord.
Alors, moi, je suis curieux de savoir,
sur la Côte d'Azur.
Quand vous jouez en compétition, ça se passe comment? Dans des salles, il y a un public. Comment est le public? Enthousiaste? Il doit être silencieux? Il doit être,
Alors, il doit plutôt être silencieux pendant les matchs, mais de toute façon, ils le sentent vite, puisque au moment où le coup de sifflet de début du match se fait, le silence se fait dans la salle. Un peu comme au tennis. Et puis à la mi-temps, il y a de nouveau du bruit et ainsi de suite. Il y a rarement énormément de monde qui vient regarder, mais là aussi, je trouve, là, on fait une grosse compétition à Maison Lafitte. On est au troisième major de suite, donc un major, c'est un peu comme un grand chelem. Et avec les annonces qu'on peut faire sur Le Parisien, sur les différents réseaux et les différents canaux, on a quand même des visiteurs à chaque fois, plus que dans les années 80-90 finalement. Donc, ça se fait dans des gymnases, effectivement, les grosses compétitions. À La Morlaix, on a eu quelques visiteurs aussi ce week-end. Donc,
jamais en plein air?
Ah non, parce que là par le coup, sur un ballon qui fait 2 grammes, c'est juste pas possible. Pour les animations, c'est très bien, parce que ça nous permet, lors des fêtes de foot, lors des stades de foot, avec Laurent Fournier, par exemple, ou autre,
Ça nous permet de faire des animations et de faire découvrir le football de table aux enfants et aux ados. Donc là, c'est pas très grave qu'il y ait du vent. On arrive quand même à jouer, mais en compétition, ce serait pas possible.
Et alors, chaque club a son, a sa couleur de maillot.
Chaque club oui. a sa couleur de maillot.
D'accord.
Oui.
Donc c'est fait main.
Ah, c'est pas fait main, c'est fait par des équipementiers.
La peinture ah, pardon, sur les petits bonhommes.
Ah non, je parle des joueurs.
Ah oui.
Ah pardon. Alors. L'équipe, chacun joue avec l'équipe avec laquelle il veut. Donc, il peut prendre une équipe qui est déjà toute faite, comme par exemple celles qui sont devant nous, Brésil ou France. Mais il peut aussi la peindre lui-même s'il le souhaite.
Ah, vous n'avez pas une couleur de maillot en fonction du club ?
Non, on comme a un maillot,
comme,
nous,
comme un club de foot. Oui,
nous, on a les un joueurs, maillot oui, en oui, fonction du club.
Okay.
Et vous êtes donc 8 autour de la table, c'est ça ?
On est 4.
4 ?
Non, non, alors on n'est pas autour de la même table. On a chacun, si c'est par équipe, on va avoir 4 tables. Et donc, on est 1 contre 1.
Ah,
sur 4 tables. Okay. On est 8, mais sur 4 tables.
Okay, ouais, c'est ça.
Plus les arbitres.
Donc, à tour de rôle, ça dure combien de temps le passage ?
C'est des mi-temps de 15 minutes.
Ouais, 15 minutes.
Deux mi-temps de 15 minutes par match. Mmh. Et pour gagner une grosse compétition, une Coupe du Monde, un Championnat de France ou un gros tournoi comme le Major, c'est 7 matchs dans la journée.
Mmh.
Donc, il y a 7 fois 30 minutes à être à fond. Quoi.
Ouais. Et le public, il est assez varié. Vous avez. Quel type de public ?
On a de tout. On a des nostalgiques, on a des gens qui découvrent. On a aussi des jeunes qui viennent. Alors, les jeunes, on les voit plus quand on a des animations dans les centres de foot ou dans les centres de foot 5, par exemple, où là, il y a plus de jeunes, on va dire. Sinon, dans les tournois, ceux qui viennent parce qu'ils ont vu qu'il y avait un tournoi ou une compétition dans le journal ou dans sur les panneaux municipaux. C'est plutôt des parents qui viennent avec leurs enfants ou parce qu'eux-mêmes connaissaient déjà le jeu, effectivement.
Mmh. Alors, on peut être mélangé, tout âge, il n'y a pas de problème. Dans une même équipe, on peut jouer avec son papa, sa maman.
Dans une même équipe, on peut jouer. Ouais. Voilà, le côté intergénérationnel est très important.
Filles-garçons.
Ouais. On a, donc je disais tout à l'heure, nos équipes de France féminines qui ont été championnes du monde en 2022 notamment et déjà encore avant, mais on va dire dans le temps récent, 2022 et vice-championne du monde en 2024. Et il y a également les compétitions open où là c'est le niveau et pas la catégorie qui va faire, donc on peut avoir dans une même compétition du moins de 12 ans, du moins de 16 ans, des féminines, des vétérans, des gens qui jouent depuis 50 ans, des gens qui jouent depuis un an, voilà.
Ouais. Et en individuel, il peut y avoir carrément un contre un, c'est pas possible?
Ah, c'est un contre un.
Oui, non, mais je veux dire, oui, ok, mais il n'y a pas d'autre qui arrive derrière, quoi. C'est-à-dire que un contre un après. Un autre contre un autre.
Dans un tournoi, oui.
Oui, je sais, mais c'est que collectif. On ne peut pas faire une seule partie, un contre un.
Alors, si vous êtes éliminé, il y a toujours des groupes au départ.
Voilà, ça, ok.
On va faire un groupe de 4 en général. Mmh. Donc, il y a 4 joueurs dans le groupe. Les 4 vont se rencontrer. Donc, ils vont avoir au minimum 3 matchs chacun.
Mmh.
Et à la fin des 3 matchs, les 2 premiers passent au tour suivant.
D'accord.
Et là, on est souvent en élimination directe.
Oui. Ah ouais, c'est ça.
Ouais. On peut jouer qu'à un seul joueur, on peut pas jouer à deux joueurs.
Un contre un. Il y a eu des tournois de double dans quelques pays. Nous, on a essayé 2-3 fois, c'est un peu le bazar. D'abord, c'est très compliqué d'être à 4 autour de la table plus les arbitres.
Parce qu'en général, il y en avait un qui était gardien et puis l'autre qui faisait bouger les petits bonhommes.
Il y a plein de règles de double qui existent. Il y en a au moins 3, disons, qui peuvent faire sens, mais ça a jamais vraiment pris en France, en tout cas.
D'accord.
Non.
Il y a un peu d'intox entre vous.
Ah, ça peut.
Ah oui.
Un peu moins.
Comment
maintenant,
ça se passe
quand
vous êtes au bord de...
Alors déjà, il y a
on
quand même
le côté... d'intimider l'adversaire.
Non, il y a déjà, sans chercher à l'intimider, il y a déjà le côté mental. C'est-à-dire que...
Le poker face.
Si je montre que... Oui, voilà, il y a de ça. On peut reprendre les analogies avec le tennis, mais la finale Alcaraz-Sinner ou Coco Gauff-Sabalenka, le jeu mental entre les deux, c'est exceptionnel. Je veux dire,
c'est ça qui fait la différence.
Sabalenka qui mène 4-1, qui survole le match... Au football de table, ça peut arriver. Je peux mener 3-0. Ça m'est arrivé, moi, d'être mené 3-0 et de finalement gagner 4-3. Ou à l'inverse, de mener moi 3-0 et me faire remonter. Je veux dire, parce qu'à un moment donné, voilà, il y a un grain de sable qui vient dérégler la machine. Et puis ça se voit. L'adversaire le voit. Et comme il le voit, bah, il en profite parce que lui, il était au fond du trou. Puis finalement, il se remet à être bien. Et à l'inverse. Donc, on retrouve tout ça dans le football de table.
Et je vais rebondir sur ce que vous disiez, puisqu'on parle d'analogie avec le tennis. On a vu que le public de Roland-Garros, quand même, il a pas mal changé. Il est quand même très bruyant par rapport à ce qu'il était avant. Trop, hein, on est d'accord.
Trop.
Et qu'en est-il du public, justement, au Subutéo, au football
Alors,
de table
On n'a pas encore ce phénomène-là.
Ouais.
D'abord, parce qu'il n'y a pas énormément de public, il faut reconnaître. Mais au-delà de ça, les joueurs sont plutôt respectueux. Quand c'est des joueurs qui sont en tribune vers les fins de tournoi, quand on arrive dans les finales, demi-finale, finale, les joueurs éliminés, et ça peut faire 200 joueurs qui sont autour,
qui regardent les matchs.
Donc, vont respecter en général les joueurs qui jouent, parce qu'ils savent que la concentration, ça fait partie du jeu. Et voilà.
Et ça veut dire qu'un match peut durer combien de temps ?
Et bah, demi-temps de 15 minutes, et s'il y a prolongation.
Ah oui.
On fait, nous, encore la mort subite.
Ah, d'accord.
Le but en or. Certains préfèrent que... Ils n'aiment pas quand je dis mort subite. Je veux dire le but en or. Enfin, ça revient à peu près au même. Et alors, le but en or, quand on joue en individuel, c'est déjà difficile parce que celui qui marque, évidemment, gagne le match et l'autre a perdu. Mais alors, quand on est par équipe, et ça nous est arrivé avec les filles en 2022, on gagne la finale. Elles gagnent la finale à Rome contre les Italiennes au but en or sur les quatre terrains. C'est-à-dire qu'il y a les quatre terrains qui jouent. Et le premier but marqué sur n'importe lequel des quatre terrains fait gagner toute l'équipe.
Ouais.
Donc là, c'est très, 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 très chaud.
Ah oui.
Psychologiquement.
Il y a des tirs au but si jamais il n'y a pas de...
Et il y a des tirs au but à l'issue des 10 minutes si jamais il n'y a pas eu de but pendant les 10 minutes.
Ouais. Ah oui, quand même.
Mais le but en or...
Ah, c'est du sérieux.
Le but en or, là aussi, on parlait un petit peu de mental tout à l'heure. Ça veut dire que le but en or, je peux très bien avoir perdu mon match 5-0 ou gagné 5-0, du coup. Et si c'est moi qui encaisse le but... Bah, je fais perdre l'équipe alors que j'ai gagné 5-0 ou 5-1 du coup. C'est terrible.
Ah oui, c'est.
Eric, quand vous terminez un match, vous êtes comment ? Vous êtes rincé, les CV ?
Rincé, ouais.
Ouais, rincé. Mentalement ?
Ouais. Alors, un match, ça va, ça dépend. Il y a des matchs qui peuvent être faciles. Moi, quand j'étais dans les meilleurs joueurs mondiaux, le niveau, en fait, c'est un peu aussi comme dans beaucoup de sports, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie pyramide de niveau qui était assez. Comment dire, assez pentu. Voilà. Mm-hmm. C'est-à-dire que les meilleurs étaient beaucoup plus forts que les moyens et il y avait des moins bons qui étaient moins bons que les moyens. Voilà. Donc les premiers tours des tournois, c'était assez facile. On pouvait se permettre de jouer tranquille. Aujourd'hui, le niveau est tellement dense du fait de l'évolution du matériel. Et là aussi, comme au tennis, j'entendais Bublik cette semaine dire que le niveau, même par rapport à il y a 5 ans, c'est incroyable la densité. Nous, c'est pareil. La densité est telle que dès les premiers tours des tournois, il faut être tout de suite au taquet parce que sinon, on se fait sortir. Mm-hmm. Donc cette densité de niveau... Ouais. Est vraiment nouvelle dans la discipline et fait qu'il faut être à fond dès le début. Ouais.
Et pour devenir un top 10, ça demande quoi au niveau entraînement, au niveau...
Alors à l'époque, moi quand j'étais donc top 10 ou top 5 ou mieux même...
Ah oui, quand même,
ouais,
quand même.
Donc quoi, j'étais top 1 mondial en 1993 et 1995. Ouais.
Ah oui, quand même.
C'était 2 heures par jour à jouer. Ah oui. C'était de la préparation mentale pour savoir quels étaient les adversaires à battre et comment les battre, quels étaient leurs styles de jeu, comment je devais attaquer ou défendre contre tel ou tel. Et donc, c'était effectivement une mobilisation. Je n'étais pas à mon compte à l'époque. Après, j'ai été à mon compte. Donc, j'étais beaucoup plus jeune aussi. J'avais ce focus et que les meilleurs ont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut s'amuser. On peut faire des tournois de légende comme McEnroe, Forger, là que j'ai vu à Roland-Garros. Le mercredi avant la finale là. Mm-hmm. Donc ça c'est, voilà, nous on joue encore à un très bon niveau mais sans pouvoir gagner des compétitions comme une Coupe du Monde Open. Ouais. Quoi.
Et comment vous étiez dans le quotidien à la maison, déjà dans le match ? Fallait pas vous parler avant le match ?
Non, ça allait parce que on est dans l'instant présent quoi. Ouais. C'était plutôt visualisé.
Ouais, c'est ça.
De la visualisation, moi j'étais commercial donc j'étais beaucoup dans la voiture, donc ça me permettait de visualiser, de réfléchir à tel adversaire, il défend comme ci, il attaque comme ça, si je lui fais mal dès le début, il va perdre pied tout de suite, au contraire je vais partir tranquille le match parce que ça peut, voilà, on arrivait à visualiser beaucoup.
Ouais. Alors il y a une façon de jouer, une façon de lancer, c'est l'index.
Ah, c'est un coup avec l'ongle de l'index, voilà, effectivement, pour
tout.
Propulser la figurine vers le ballon.
Les autres doigts, c'est interdit. Hein.
Alors, les autres doigts, oui, on a le droit de jouer avec le majeur, mais c'est tellement peu précis que ça n'a aucun intérêt.
Et nous, on jouait à la pichenette.
Et la pichenette avec le pouce est interdite aussi.
C'est interdit.
Voilà. Carton rouge.
Carton rouge. Je vois un bon maillot de l'UNFP. C'est dans le coin, les stages.
Celui-là, il vient de Carfontaine, parce que c'était un gars qu'on connaissait, qui nous en avait fait cadeau. Et c'est un vintage collector.
Philippe Lafont, j'ai discuté avec lui il n'y a pas très longtemps. On va voir si on peut intervenir sur les stages UNFP au mois de juillet aussi.
Oui, parce que vous l'avez dit, vous avez des partenaires dans le foot pro bien connus.
Oui.
Je crois Varane et Fournier.
Alors, Laurent Fournier, ça fait maintenant 4 ans que j'interviens de temps en temps assez régulièrement sur ces stages de foot pour faire des animations d'une heure, pour initier les enfants qui viennent à ces stages de foot, et notamment sur le lien avec la tactique dont on parlait tout à l'heure. Les stages Raphaël Varane, il y a eu une première au mois d'avril, donc j'espère qu'on pourra rééditer l'opération. Et j'interviens sur le stage de Daniel Bravo le 10 juillet à Bourg-Madame,
d'accord,
dans les Pyrénées Atlantiques, je crois.
Et vous faites de la promo au sein des écoles ou même dans des œuvres caritatives, genre Téléthon par exemple?
Alors, il y a des clubs qui font des opérations avec le Téléthon. Effectivement, le club de Montivilliers, par exemple, l'avait fait. Champs-sur-Marne l'avait fait aussi. Pour ceux que je connais, il y en a d'autres qui l'ont fait certainement. Au niveau des écoles, on a fait, j'ai participé il y a 2-3 ans au dispositif Tous au collège avec la mairie du 13e arrondissement à Paris.
Pas loin, pas loin.
Donc
d'ici.
Effectivement, on a fait sur le mois de juillet des animations sur 3 semaines consécutives avec des jeunes qui étaient dans le dispositif Tous au collège. En réalité, ce qui nous manque, c'est des personnes pour le faire, quoi, parce que l'intérêt, il existe partout, en réalité. L'intérêt, il existe partout, mais on ne peut pas être partout, partout en même temps.
Il faut des ambassadeurs.
Il faut des ambassadeurs.
Oui. Et quand vous dites « je fais du Subutéo », est-ce qu'on vous prend en sérieux? Est-ce que les gens disent « non, c'est pas un sport ».
Alors finalement, c'est assez... Enfin, je ne sais pas si c'est paradoxal ou pas, mais on prend plus au sérieux maintenant que dans les années 80.
Voilà. Ouais. Bah, oui.
Parce que...
Oui, c'était le divertissement.
C'était
avant,
le divertissement.
C'était pas structuré.
Le côté compète était pas... Alors après, on a eu aussi plus de parutions médias maintenant. Il y a eu une multiplication des médias, donc il leur faut du contenu. Donc du coup, peut-être que c'est aussi plus facile de passer maintenant, quelque part, que ça l'était quand il y avait 2 chaînes, quoi, ou 3 chaînes. et puis, non, mais je pense aussi que tout ce qui s'est développé autour du foot, autour du côté manuel, autour de la préparation mentale, tous les aspects tactiques et tout ça, ça recentre sur le vidéo.
Je trouve que c'est bien, moi, pour préparer.
Bah oui.
Alors, moi, je me rappelle...
Visualiser.
Moi, je me rappelle, mais... servi de mon jeu, mais c'était postulé à l'époque, quand on était dans les forums des associations, en début d'année, enfin en début de saison, et ben dans sur le stand de foot, je mettais... Alors les mômes regardaient ça, mais ils n'osaient pas y toucher. Mais, alors, mais on ne me posait jamais la question, et comment on y joue? Non, on regardait les petits bonhommes. Parce que moi, je m'étais dit, eh ben, c'est un moyen déjà pour expliquer aux enfants comment tu te places sur un terrain de foot.
C'est ça,
déjà d'une
complètement.
Part, sans y jouer au Subutéo, mais leur faire voir que bah là tu te mets là, t'es un ailier, tu te mets là, t'es bon. À l'époque, on jouait avec des inters, on jouait avec des, mais bon, c'est... le WM
a changé, mais finalement ça reste,
ça reste la même chose. Mais je trouvais que c'était ludique et pratique pour expliquer la théorie du football.
Ah bah la théorie du football, c'est idéal pour l'expliquer. Alors on en parlait avec Laurent Fournier l'autre jour, et la présidente du club de Châteaudun, où il intervenait sur un stage là, à côté de Vendôme. On va certainement faire une version, on va dire, plus petite du terrain, d'un tiers ou un tiers de moins.
Oui, parce que ça fait combien le terrain là?
Le compétition. Le terrain fait, alors la table en elle-même fait 1,50 m par 1 mètre.
D'accord.
Le terrain fait à peu près 1,20 m, l'aire de jeu par 90. Et on va certainement faire une version un peu plus courte qui sera justement adaptée au club de foot. C'est-à-dire que ça ne sera pas fait pour jouer, à proprement parler. Ça sera fait pour montrer les tactiques du foot. Et que ce soit facile à mettre au mur, à mettre sur une table, que ça prenne moins de place et plus facile à transporter. Donc je suis en train de réfléchir à ça avec un des fabricants de tapis pour qu'on fasse mais quelque chose qui soit vraiment dédié au milieu du foot. Voilà. Mais parce qu'en faisant ça, ça nous aidera aussi à récupérer forcément des pratiques.
Parce que moi, je fréquente encore toujours un peu le milieu du football. Bon, les entraîneurs, ils ont leur paperboard avec les petits points aimantés, et puis basta, quoi.
Voilà, c'est ça. Et le fait de montrer, bah, par exemple, que quand tu te mets en 3-5-2, quel est le rôle des centraux, qu'est-ce qui se passe si si c'est un 4-4-2 en face, t'as que deux attaquants à marquer, ok, mais si ça vient de partout, si t'as l'ailier qui vient, enfin, c'est plus l'ailier maintenant, si t'as le piston qui déborde.
Voilà, voilà, c'est ça.
Allez, les mots ont changé.
Allez, on va marquer une pause musicale. On va justement parler de la semaine d'actu foot, hein, de cette quinzaine, avec notre ami Stéphane Desenclos. Et ensuite, on finira sur ce sport qu'est le Subutéo. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui viendront vous rejoindre après cette émission.
Mais j'espère bien, voilà. J'espère bien. Allez, on attend que ça.
La pause musicale.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers.
passe la moitié de ma vie en l'air. Entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère.
Moi es-tu heureux?
Je suis pas heureux mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Je n'ai qu'un seul regret, je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un acteur. Pour tous les jours, changer de peau. Et pour pouvoir me trouver beau. Sur un grand écran en couleur. Pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe.
Voilà, bah comme promis, maintenant on va retrouver, comme chaque lundi, notre ami Stéphane Desenclos. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Ouais, le Subuteo, ça dit quelque chose, Stéphane, c'est ta génération, ah, comme la mienne.
Bien sûr, mais j'étais pas trop un adepte, en fait. J'ai dû jouer une fois ou deux quand j'étais jeune. Bien sûr, parce que j'ai bien vu ça, mais j'ai jamais vraiment été bon dans ce sport, on va dire, ce jeu. En fait.
C'est un sport, hein. On a le président de la Fédération française ce soir avec nous et également... Présent du PUC, c'est un véritable sport. Et il y a beaucoup de professionnels qui jouent et qui sont maintenant des parrains de cette activité sportive.
Des professionnels du foot.
Oui, professionnels du foot, naturellement, ça va de soi. Dont Laurent Fournier et Raphaël Varane, hein, c'est ça.
Ah oui, les stages Varane, oui.
Bon, Stéphane, actu foot de ces quinzaines, d'ailleurs marqué d'abord par la Ligue des Nations. Hein, donc, l'équipe de France qui a terminé troisième de cette Ligue des Nations. On va rappeler que les Portugais s'étaient imposés devant l'Allemagne 2-1 avant une défaite de l'équipe de France tout à fait légitime et logique contre l'Espagne 5-4. Et puis, match de la troisième place où l'équipe de France, malgré une prestation mitigée, s'est imposée 2-0. Victoire des Portugais hein, dans cette Ligue des Nations 2025. 2-2 après prolongation. 5-3 au tir au but. Donc, quels enseignements peut-on en tirer?
Je sais pas, c'est que c'est je crois, je pense qu'il n'y a pas grand enseignement à tirer, parce que moi je suis pas trop d'accord. Je trouve que, comme beaucoup d'ailleurs, parce que c'est de bon ton hein, de casser du sucre sur les déchants, je pense que sur les deux matchs, les enseignements à tirer, c'est que moi j'aimerais bien voir l'équipe de France jouer comme ça régulièrement, parce que je suis persuadé pour ma part que le match contre l'Espagne, si tu joues avec Upamecano, Koundé et puis Saliba, je pense que c'est pas le même résultat quoi. Et je pense que l'équipe d'Espagne, elle a eu beaucoup de chance quand même, même si on aurait pu en prendre pas mal en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on fait une très belle entrée, quatre attaquants, donc souvent pour moi les enseignements c'est là. C'est quand même une des premières fois qu'on voit Deschamps aligner une équipe aussi offensif que ça. Le problème, c'est que quand on fait ce quoi, c'est mon point de vue à moi, hein, c'est quand on fait ça, faut être très très solide, très très solide derrière.
Oui, Stéphane. Ah, il y a une petite coupure avec Stéphane. On va essayer de le. On n'a plus Stéphane Desenclos. Est-ce que Stéphane est là? Alors, on va le rappeler. Ce sont donc les impératifs du direct. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit notre ami Stéphane Desenclos?
Moi, je suis. Je pense que l'Espagne nous était quand même un petit peu supérieure. Oui, quand même. Là où il a raison, c'est qu'effectivement, on aimerait bien que l'équipe de France joue de façon plus offensive, avec un peu quand même d'assises derrière. Là, il nous manquait quand même, on va dire, au moins deux des titulaires. Konaté, sans doute, Koundé ou Upamecano.
Saliba.
Saliba, qui a fait une saison monstrueuse avec Arsenal. Donc, c'est sûr que potentiellement, on avait des joueurs qui faisaient mieux le boulot que Clément Langlais, quoi.
Moi, je trouve que l'Espagne, Lamine Yamal, oui, était plus fort que les Français, mais les autres Espagnols.
Ah, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que le collectif, il est quand même bien plus rodé. Ils se connaissent mieux. Il y a plus d'affinité technique. Il y a plus de propositions que l'équipe de France.
Oui, c'est sûr. Oui, Stéphane, je pense qu'on t'a retrouvé. Il y a des petits problèmes actuellement. J'en suis le témoin, hein, avec le réseau SFR, ce qui explique qu'on a été effectivement coupé. Alors vas-y, on te réécoute.
Je ne sais pas à quel niveau on a été coupé, mais j'expliquais qu'on est un peu dur avec l'équipe de France sur ces deux matchs, parce que c'est une des premières fois que Didier Deschamps aligne autant de joueurs offensifs. Il y a quand même des sacrés talents quoi, hein, sur les deux matchs, bon, qui n'ont pas été les mêmes sur les deux matchs, mais quand même beaucoup de talents. Et que si, quand on fait ça, il faut malheureusement avoir une arrière-garde solide. Et que quand on voit qu'il y avait Koundé, Upamecano et Saliba qui étaient absents, c'est-à-dire trois titulaires sur quatre en défense, forcément, ça a pas aidé quoi. Donc je pense que moi l'enseignement il est là quoi. Je pense qu'on a vraiment pâti cette défense. Il n'y a pas que de la faute des défenseurs sur le match,
non.
Bien sûr.
Non, parce que on a raté quand même pas mal d'occasions devant hein. En première mi-temps, il y a eu des occasions, mais bon, il y a eu aussi un bon gardien en face.
Oui, mais sur le match quand même, t'en mets quand même, je ne me rappelle même plus le score, t'en mets 4 ou 3.
Ouais,
ou
enfin,
4,
c'est parce que l'Espagne se relâche un petit peu en fin de match quand même.
Ouais. Cas, bon, moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'on a été très dur. Je pense que c'est l'équipe de France. Puis sur l'Allemagne aussi, je pense que tu étais un peu sévère. Parce que moi, l'Allemagne, France-Allemagne, on a vu quand même un bon match avec des belles choses dans le match.
Surtout en deuxième mi-temps.
Ouais. Voilà, ouais, donc je pense que c'est pas mal. On a vu quand même, Philippe, mais quand tu regardes. Hier, par exemple, Paris Saint-Germain, Atletico, et que tu vois un match comme le Clément Langlais, tu te demandes quand même franchement ce qu'il faisait en défense centrale en équipe de France.
Il n'y avait rien d'autre en magasin.
Bon, donc ça, c'était la Ligue des Nations. Naturellement, concernant les féminines, il y avait aussi une Ligue des Nations. Les féminines qui avaient gagné donc leur dernier match contre l'Islande 2-0. Elles terminent en tête de leur poule avec 18 points devant la Norvège, 2e, 8 points. 3e, l'Islande, 4 points. Et 4e, la Suisse, 2 points. Ça veut dire que les Françaises joueront aussi cet automne les demi-finales contre l'Allemagne alors que l'Espagne jouera la Suède. C'est de bonne préparation avant l'Euro?
Ouais, c'est une bonne préparation. C'est 6 matchs, 6 victoires avec les choix forts qui ont été pris par le sélectionneur par le sélectionneur en décidant de se passer de certaines anciennes glorieuses anciennes, hein, dont l'image bien sûr de la capitaine Wendy Renard. Donc je pense que c'est une bonne chose et c'est vrai que elles arrivent dans cet Euro qui commence je crois le 2 ou le 3 juillet avec oui. Avec une bonne un bon souffle derrière elles quoi. On va voir ce que ça va donner.
Ouais, elles joueront donc dans le groupe de l'Angleterre, des Pays-Bas et du Pays de Galles, en espérant qu'elles franchissent enfin ce fameux plafond de verre. Alors elles étaient en demi-finale il y a 4 ans, mais sinon c'est une équipe, on le sait, on en a souvent parlé, que ce soit dans une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, qui a du mal à passer le palier des quarts de finale.
Ouais, et puis en plus de ça là, il va déjà falloir passer le palier de la phase de poule. Hein,
oui, parce que Angleterre-Pays-Bas, ouais.
L'Angleterre et les Pays-Bas, c'est pas n'importe qui. Donc, on va voir. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être un... Enfin, moi, en tout cas, j'avoue que j'étais un peu lassé de cette équipe de France hein, qui n'arrête pas, qu'on attend et qui n'arrête pas de perdre. Alors, est-ce que c'était l'image un peu identifiée par des filles comme Wendy Renard, comme Jenny Le Sommer, comme des anciennes et tout hein. C'était un peu comme une époque... Pas forcément, hein, c'est une époque où... On disait ça de Paris avec Marquinhos, hein, qu'il fallait. Donc c'était ce qui a été fait. S'il y a un vent nouveau qui va souffler, on va voir ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est assez positif quand même. Quoi.
Un petit mot sur l'Euro espoir. Hein, donc parce que tous les footballeurs sont pas encore en congé. 0-0 pour la France devant le Portugal. Victoire 3-2 de l'équipe de France devant la Géorgie. Demain, ils jouent la Pologne. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet Euro où pour l'instant les Français sont en tête à égalité avec les Portugais?
Bah, je dirais que ça, si on regarde la logique et si on fait une analyse qui sont parfois mises à mal dans le monde, dans le football, j'aurais tendance à dire pas forcément grand chose.
Oui.
Parce que, encore une fois, c'est un peu, c'est un peu passé inaperçu, quoi. Ça a un peu passé sous silence, mais il y a quand même beaucoup de joueurs français. Des fois, on a un peu de se retrouver aux Jeux Olympiques, même ceux-là, de Paris, ou voire, les pires encore, les Jeux Olympiques de Tokyo, où c'est quand même presque, c'est pas une équipe bis, mais il y a quand même plein de joueurs. Alors, certains ont été blessés, je crois qu'il y en a un ou deux qui sont blessés, mais certains ont carrément refusé d'envoyer les joueurs parce que c'est pas les, je crois, c'est un peu compliqué tout ça. Et en fait, c'est quand même assez décevant. Donc, officiellement, je pense que, quoi, logiquement, aller passer le cap suivant, oui, mais après, je pense
en demi, ce sera au moins raisonnable.
Ah, en demi, ça serait bien. On va voir je sais pas, il y a un quart de finale d'abord, je sais pas contre qui ils vont tomber en quart de finale. En tout cas, le match contre la Géorgie, c'était un super match, c'était magnifique. Ils ont montré qu'ils avaient quand même des ressources morales très fortes parce qu'ils ont dominé, c'était contre le cours de jeu, du jeu qui était mené à la fin, et ils ont renversé la situation. Donc c'était super quoi. Ça au moins la force mentale.
Allez, on termine avec la Coupe du Monde des clubs hein, qui a débuté ce week-end. Large victoire d'un Paris Saint-Germain où rien ne lui résiste, hein, qui s'est largement imposé devant l'Atlético de Madrid 4-0. Entre nous quand même, Stéphane, c'est pas la compétition de trop dans l'année. Ça va durer un mois.
Bah, j'avoue, je sais pas encore. Je suis pas trop adepte de la culture de l'instant, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut avoir effectivement tendance à dire que pour l'instant, le tout début ressemble pas à grand chose, bien que normalement, quand on aurait eu Paris Saint-Germain contre l'équipe américaine là, de son groupe, là, dont j'ai plus le nom, et il y aurait ce score-là, on dirait ça, bien sûr. On dirait ça parce que le Bayern a étrié Auckland, parce que Paris a gagné. Mais là, on a eu quand même un match entre deux équipes européennes. Donc, Paris est très, très fort de au-dessus. Après, il va falloir voir. Moi, je pense que c'est un peu comme les Coupes du Monde. Est-ce qu'elle est trop? Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas que je fais partie des gens qui ne pensent pas que les. que les footballeurs professionnels jouent trop. Moi, personnellement, je ne pense pas ça. Je pense que quand tu as un effectif, et alors c'est le cas, hein, quand tu as un effectif comme le Paris Saint-Germain, par exemple, les joueurs font tourner, puis Madrid, c'est pareil, puis l'Inter Milan, c'est pareil, pour Madrid, la Madrid, les deux équipes de Madrid, quoi, tous les City, c'est pareil. Ils sont tous en mesure de pouvoir faire tourner leurs joueurs pour pas. D'ailleurs, je pense que vendredi, on va avoir beaucoup de changements dans l'équipe de Luis Enrique. Maintenant, est-ce que c'est trop? Effectivement, pour l'instant, c'est pas très emballant. Il y a beaucoup d'écarts et tout, mais dans les Coupes du Monde, une Coupe du Monde, les premiers tours, moi, je me rappelle, bon, ça fait longtemps, parce qu'il y a eu du chemin de fait depuis, du Honduras qui avait pris un 10-0, je sais pas contre qui. Les équipes africaines, en début, elles prenaient beaucoup de buts, il y avait une grande différence. Donc c'est sûr qu'il y a une différence, mais dès qu'on va passer le stade des huitièmes ou des quarts de finale, on va arriver sur des matchs quand même intéressants, quoi. Après, je pense que les grandes équipes, notamment, je pense à Chelsea, par exemple, Manchester City, Real Madrid, Atlético de Madrid, même Atlético de Madrid, c'est des équipes qui ont quand même largement la possibilité avec leur effectif de faire tourner leurs joueurs, quoi. Mmh. Ben, rendez-vous compte, Philippe, Marquinhos, en 2025, il y a 10 matchs, il a raté 10 matchs avec le PSG.
C'est fou.
En 2020.
C'est fou.
Il a été, je crois qu'en Ligue 1, il doit être à 21 ou 22 matchs, je crois, sur la saison. Marquinhos. Donc, comment tu fais pour arriver à avoir un Marquinhos comme il a été hier, par exemple, à son niveau, quoi, ou comme il a été en finale de la Ligue des Champions? Bah, tu fais comme fait Luis Enrique. T'as effectivement, il faut avoir de l'argent, il faut avoir les moyens d'avoir un Beraldo ou un Lucas Hernandez pour prendre la place derrière, à sa place. Mais bon, tous les clubs que j'ai cité là, ils ont largement les moyens d'avoir ce type de joueurs dans leur effectif, quoi. Donc moi, je pense. Après, on va voir. J'attends. Je donne rendez-vous en huitième en quart pour voir les matchs qui vont se dérouler pour dire si c'est sûr que ça part un petit peu doucement.
Très bien, merci Stéphane. Juste un petit mot de notre ami Eric, qui est président donc du BUC, qui est de la Fédération française pour le Subtéo. Oui. Qu'est-ce que vient dire notre ami Stéphane? Vous êtes un petit peu d'accord avec lui? Pas du tout.
Moi, je partage pas trop. Je trouve que c'est une compétition de trop. Et malgré les effectifs, d'abord, je pense que mentalement, là aussi, on parle un petit peu de mental tout à l'heure, les joueurs ont besoin physiquement de couper, ils ont besoin mentalement de couper, les spectateurs aussi. Et d'autre part, c'est une compétition qui est quand même pour une large part sur invitation. Il n'y a pas Liverpool, il n'y a pas le Bayern, il n'y a pas Arsenal, il n'y a pas le champion des États-Unis parce qu'il fallait mettre l'Inter Miami. Enfin, je trouve que sportivement, ça a aucun sens.
Ouais, je suis d'accord. J'explique, je joue comme moi. Moi, je sais que j'ai un avis qui n'est pas partagé par beaucoup de gens. Hein. Je pense que quand tu gagnes 1 million d'euros par mois, de toute façon, dans la charte professionnelle, tu es obligé d'avoir 3 semaines de vacances minimum. Donc, tous les footballeurs, ils vont avoir 3 semaines de vacances. Après, il peut y avoir débat pour dire qu'effectivement, moi, je suis le Paris Saint-Germain, Dembélé, Marquinhos, Vitinha, Doué, je les revois plus avant le début du mois de septembre. Hein. Le début de championnat, ils jouent sans eux hein, pour qu'ils se reposent. Donc ça, c'est le premier point, mais c'est vrai que c'est mon avis personnel. Maintenant, le critère, il faut juste connaître le critère de... C'est pas du tout un tournoi sur invitation, c'est en fait un tournoi qui se base, c'est très simple, sur les coefficients, les points gagnés en UEFA au cours des 4 dernières saisons, c'est-à-dire pour l'édition de 2025, c'est pour les saisons de 2020-21 à 2023-2024.
Mais il n'y a pas Liverpool.
Ouais, il n'y a pas Liverpool parce que à cette période-là, Liverpool, je sais, c'est un peu bizarre, Liverpool a eu deux équipes anglaises qui ont marqué plus de points que lui. Donc, comme il peut, je ne dis pas si c'est bien, je ne dis pas forcément que c'est bien et tout, j'explique. J'ai fait un article justement moi sur mon blog en disant pourquoi ce n'est pas les meilleurs qui jouent la Coupe du Monde des clubs. Effectivement, ce n'est pas les meilleurs, il n'y a pas Barcelone,
il n'y a pas Naples.
Il n'y a pas l'Atlético de Madrid, mais simplement, il faut avoir été performant au niveau européen entre 2021 et 2024. Liverpool n'a pas été performant. Ils ont gagné avant, ils sont redevenus bons après, mais ils n'ont pas été performants. Barcelone a été quasiment absent. Après, il y a seulement 2 pays par nation qui sont autorisés. C'est-à-dire que Liverpool est 8e, ils prennent 12 équipes en Europe. Liverpool est 8e, donc normalement, on aurait dû participer à la Coupe du Monde des clubs. Sauf qu'il y a 2 clubs anglais, qui sont Manchester City et Chelsea, qui, sur les 4 années en question, qui sont prises en compte, ont fait des meilleures performances. Donc les 2 clubs anglais sont pris, et par exemple Salzbourg, qui est 15e ou 16e rang au niveau de l'UEFA, Salzbourg qui est autrichien, Salzbourg participe à la Coupe du Monde des clubs. Mmh. Effectivement, là, je suis tout à fait d'accord, c'est un peu, et après, on va effacer les derniers résultats et ça va revenir pour l'édition 2029, ça sera les résultats de 2000. Donc là, il y aura probablement Liverpool, mais encore, c'est même pas sûr qu'ils ont fait 8e de finale seulement. Hein. Ce que je sais, c'est que c'est un peu
la tête du coup.
Alors, l'histoire des derniers, je sais pas bien, mais en tout cas, effectivement, ça peut paraître un peu cruel comme ça, c'est pas forcément les meilleurs du moment parce que c'est par rapport à aux 4 années précédentes. Quoi.
Très bien, merci Stéphane de nous avoir accompagnés.
Allez. Hein.
Allez, à très bientôt. Salut, allez. Merci.
Bonne soirée, au revoir.
Bon, SFR nous a laissé tranquille. Voilà. Alors, Eric, avant de terminer rapidement cette émission, deux choses. Est-ce qu'on peut vivre à haut niveau de ce sport?
Ah non, alors nous, on fait une discipline amateur à 100%, c'est-à-dire qu'on gagne des coupes, on gagne des trophées.
Vous n'avez jamais vécu de cette discipline?
Il y a eu une tentative quand j'étais encore à très haut niveau, une tentative d'un tournoi au Danemark de mettre un petit peu d'argent. Mais c'était de quoi couvrir les frais de transport, en gros. Hein.
Ouais.
Et comme ça reste compliqué à arbitrer, il y a toujours un peu de tension parfois qui peut arriver. Si on rajoute en plus 100 euros, 200 euros, 500 euros, ça vient complètement dénaturer l'intérêt de la discipline. Donc, on a arrêté ça.
Au niveau de l'arbitrage, ça se passe plutôt bien?
Oui, alors les joueurs arbitrent eux-mêmes. C'est-à-dire que, en fait, quand on ne joue pas, on va arbitrer d'autres matchs. Donc, par exemple, je vais jouer 2 matchs de premier tour, je vais en arbitrer un sur un autre groupe. Ce qui fait qu'on est obligé, là aussi, de s'impliquer dans l'arbitrage et de savoir que l'arbitre peut aussi faire des erreurs.
Bien sûr.
C'est un côté éducatif.
Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien.
C'est aussi une éducation chez les jeunes quand ils commencent à jouer, de leur faire arbitrer des matchs parce que. À partir du moment où on sait jouer et qu'on connaît les règles pour jouer, on les sait aussi pour arbitrer et que c'est aussi éducatif de pouvoir arbitrer.
On va quand même rappeler aussi qu'il y a un sport qui est un petit peu similaire, le baby-foot, c'est la même fédération?
Non, pas du tout.
D'accord,
non,
c'est bien.
Une autre fédération.
Très bien. Et pour terminer, la Coupe du Monde donc, de Subbuteo au stade de Charletti. En septembre 2026,
c'est ça.
Prenez rendez-vous.
C'est ça, Philippe. Oui, septembre 2026, Coupe du Monde à Charletti, ça va être énorme.
Oui, ça va être énorme. Merci en tout cas. Donc, si on on va finir là-dessus.
Merci.
Si on veut finir, cette émission en vous rejoignant, on va où?
On va sur 3fts.fr pour trouver le club le plus près de chez soi, où on nous sollicite pour créer des clubs aussi.
Oui.
La fédération aide en termes de matériel pour créer les clubs. Et puis, donc, il y a toutes nos coordonnées sur le site.
Très bien, merci.
Sur les réseaux,
à
Facebook,
très bientôt.
TikTok,
et puis, on sera là pour
la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde. Hein. On essaiera de vous faire vivre ça de l'intérieur et de la meilleure des manières. Voilà.
C'est génial.
Merci, Alexandre. Rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci Vanessa, tu es à la Journée Olympique la semaine prochaine.
Exactement.
T'as pas oublié, hein.
Et puis, là, dès samedi 21 juin, il y aura la vasque qui revient.
On en reparlera la semaine
olympique.
Prochaine.
Exactement.
On en reparlera. Merci, Bruno, d'avoir
merci
été avec
nous. Merci à vous.
Merci donc à Léonard. Et puis, on vous laisse maintenant. Tiens, avec nos amis de. Au bout du foot, on va prolonger encore l'actu du ballon rond. Belle soirée à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine et on termine comme chaque lundi en musique. Belle soirée.
Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon, 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 Bidonville. Vivre là-dedans c'est coton. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les chambres l'herbe pousse, pour y dormir faut se pousser. Les gosses jouent, mais le ballon c'est une boîte de sardines bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi. On peut se croire égaux. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon, Bidon. bidon, bidon, bidonville. Me tailler d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions. Je reverrai toujours, toujours bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, bientôt, bientôt.
Mon Paris est fait.